Quotidien avec Denis Martin Chabot.
Bonjour, 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 bonjour. Pourquoi quatre fois bonjour, Mathieu, vas-y donc.
Parce que vaut mieux faire quatre laryngites que de se perdre dans quatre labyrinthes.
Ah, mon labyrinthiste peut-être, oui, tant qu'à faire. Ben, moi, en fait, moi, c'est 5 laryngites cette année, donc...
Non, mais il faudrait dire
que j'ajoute
bonjour.
Un bonjour une cinquième fois. Ben oui. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour Mathieu Tessier, qui est à la régie aujourd'hui. C'est l'émission Au quotidien, en ce 8 décembre. Eh oui, ça s'en vient, là. Ça s'en vient. Elle va aller voir le Père Noël? Elle va écrire au Père Noël?
Écrire au Père Noël? Non, ouais. Pas du tout.
Non, moi non plus, parce que faut mettre un timbre, puis c'est rendu cher, un timbre, là. Ah, OK, génial, génial. Ben oui, alors, puis aujourd'hui, je vous le dis tout de suite, je n'avais pas encore mis le nez dehors, mettez vos sous-vêtements longs. Il fait froid. Et avec le facteur éolien, je pense que ça descend à moins 24 par endroit. Alors, c'est tout le Québec qui est sous l'emprise du froid. Tout le sud, qu'est-ce qu'il y a?
Non. Parce que je pensais remonter ses sous-vêtements jusque au-dessus du nez, mais ça ne marche pas. J'aurais pas dû ouvrir mon micro.
Ben non, ça peut être drôle. On va retravailler là-dessus jusqu'à la prochaine fois. Alors, juste pour vous dire, donc, c'est froid partout, Québec notamment. On va dans des minimums de moins 15 dans le sud et ça va être quand même plus ou moins ensoleillé avec des passages nuageux. Dans le nord, même chose, nuageux, averses de neige. Même chose dans l'Outaouais, l'Ottawa, l'est ontarien, moins 15. Et puis le sud ontarien, ben, c'est plus chaud, moins 5. Hein? Quand on dit que moins 5, c'est plus chaud, c'est quand même quoi quelque chose. Hein? Mais il faut toujours pas se fier à ça, c'est le facteur éolien ou le ressenti qu'on devrait dire. Neige intermittente au Nouveau-Brunswick, moins 15, Île-du-Prince-Édouard, moins 6, et Nouvelle-Écosse autour de moins 5. Et puis, il y a des avis de vent fort et de poudrerie pour aujourd'hui dans la péninsule d'Avalon à Terre-Neuve, moins 2, moins 15 au Labrador, nuageux dans l'ouest du pays, avec possibilité de neige. On est à moins 11 au Manitoba, Saskatchewan. Puis regardez bien ça en Alberta, moins 5 à Edmonton, plus 5 à Calgary. Quelque chose qui est compliqué, là. Et puis, sur la côte ouest, plus 15, bien, un avis de tempête hivernale à l'intérieur des terres de la Colombie-Britannique. Alors, aujourd'hui à l'émission, beaucoup de sujets. Nous allons parler de cet hôtel qui s'appelle le Manoir Diouville, qui a créé la première école entreprise hôtelière du Québec. Alors, on va en parler avec son directeur général, Jean-Martin Côté, qui a reçu d'ailleurs des prix pour ça. Et puis, on a une entrevue avec Lily Jacob, qui est la co-directrice du livre qui s'appelle « L'État du Québec, édition 2026 ». Et en studio, on va parler de Juste Javier. On va recevoir l'acteur principal, Alexis Comte, et le directeur, Stéphane Roy. Et on va d'abord parler de ce film de Noël que j'ai vu. Il sort à l'affiche, il est à l'affiche ce week-end, si je ne me trompe pas. Et puis, on a avec nous, on va commencer au téléphone, on a Daniel Rio au téléphone. Salut, Daniel.
Bonjour, Denis Martin. Bonjour à tout le monde.
On a un sujet des fêtes.
Ben, un sujet des fêtes, parce qu'habituellement, on dit les fêtes, c'est rassemblement, retrouvailles, mais il y a des gens qui passent le Noël seuls, hein? Donc faut pas les oublier. Puis j'ai des notes un peu plus positives, peut-être, à proposer, justement, pour se sentir moins seul. Et puis aussi, ben je pose la question, on a le droit de pas aimer Noël aussi, hein?
Ah, ben oui, on a le droit.
Ben tiens, mais ça, ben on sait pas ça, mais on a le droit de pas aimer Noël.
Ben, moi, je connais des gens qui n'aiment pas Noël.
Bon, puis... ben, voyez-vous, puis ça ne devra pas être tabou, puis vous le dites, puis c'est pas plus dramatique que ça.
Tout à fait.
C'est le sujet de ma chronique aujourd'hui.
C'est comme les gens qui n'aiment pas la crème glacée au chocolat.
Ben, non, ils préfèrent aux pistaches.
Ben, voilà. Louis de Bernice, on va parler de crème glacée. Laquelle est ta saveur préférée?
Eh ben, pas au chocolat, justement.
Moi non plus, je mange pas de crème glacée, je suis végane, alors c'est ça.
Oui, tout ce qui est fraise, mangue plutôt. Ouais. Mais bon, ce sont des saveurs de l'été.
Alors, à l'insolite aujourd'hui.
Une insolite venue d'Espagne. Une personne qui a été licenciée, congédiée, parce qu'elle travaillait trop et qu'elle arrivait trop souvent en avance au travail. Ça s'est rendu en justice et elle a même perdu. C'est une histoire un peu rocambolesque qui s'est passée en Espagne.
Wow. OK.
Et puis, je vous parlerai, j'en avais parlé en tout début d'année, je vous reparle de cette maison en Australie qui est encerclée par une zone pavillonnaire. Les enchères grimpent. Les propriétaires de la maison avec ce grand jardin ne veulent toujours pas vendre. Ça atteint une somme colossale. Je vous la révélerai tout à l'heure.
Ah, on en avait parlé. Ben oui, c'est intéressant.
C'était au mois de février.
Alors, aujourd'hui, on est le 342e jour de l'année. Hein. Ça s'approche. Noël, bientôt. Et, ben, je vais vous le dire, le seul éphéméride qui a retenu mon attention aujourd'hui, parce que c'est un événement de ma jeunesse que j'ai trouvé difficile. En 1980, aujourd'hui, John Lennon était assassiné devant son domicile, on se souvient de lui, le musicien et membre des Beatles, devant son domicile à New York. un événement qui bouleverse des millions de fans à travers le monde, dont moi. Mais on va plutôt jouer de la musique de Noël, c'est plus le fun.
Noël est arrivé, une chanson de Les Trois Accords.
Eh bien, aujourd'hui, dans une des quotidiens, La Presse Plus, une intention du gouvernement Legault provoque une vive indignation. La dissolution de Transplant Québec. Eh bien, le projet de loi 7 de la ministre France-Hélène Duranceau vise à transférer la responsabilité de la gestion du don d'organes à EMA Québec d'ici avril 2026 au nom de l'efficacité. La décision est dénoncée par des familles de donneurs. Stéphanie Prévost, dont le frère Samuel a sauvé 6 vies grâce au don d'organes, parle d'un manque de respect pour les donneurs et dénonce une approche purement comptable. Transplant Québec s'oppose fermement à cette dissolution, craignant une perte d'expertise cruciale qui mettrait des vies en jeu et pourrait provoquer une crise de confiance envers le nouveau système. Et puis en deuxième texte dans La Presse Plus, toujours sur le même sujet, mais face à cette levée de bouclier, la ministre France-Hélène Duranceau se veut rassurante, promettant de ne pas toucher à l'expertise clinique de Transplant Québec. EMA Québec, de son côté, propose d'intégrer l'équipe en totalité, allant même jusqu'à envisager une filiale pour maintenir le sentiment d'appartenance et les emplois de 70 professionnels. Toutefois, la directrice générale de Transplant Québec, Martine Bouchard, déplore l'absence de plan écrit dans le projet de loi 7 questionnant la faisabilité du transfert. L'organisme insiste, sa mission humaine menée auprès de familles brisées et aux antipodes logiques de production à grande échelle d'EMA Québec. Dans le droit ce matin, le plan d'action sur la maladie d'Alzheimer et les troubles neurocognitifs est salué pour son contenu, mais vivement critiqué pour son financement jugé dérisoire. L'Association des médecins gériatres et l'Association des neurologues du Québec estiment que le plan n'a pas les moyens de ses ambitions face aux besoins grandissants des aînés. Selon le calcul des médecins, l'enveloppe de 23,6 millions de dollars sur 5 ans représente 53 dollars par patient seulement, atteint donc d'un trouble neurocognitif la première année. Les associations demandent au gouvernement un investissement annuel de 100 millions de dollars pour rendre les solutions du plan réellement applicables. Le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, dans Le Devoir ce matin, donc, a tenté d'éteindre la polémique avec le milieu culturel à l'émission Tout le monde en parle hier soir. M. Saint-Pierre Plamondon s'est excusé pour ses mots trop durs visant des regroupements d'artistes, affirmant que ce n'était pas son intention de viser l'ensemble du milieu culturel. Il a toutefois maintenu l'attaque contre Radio-Canada, accusant le diffuseur d'avoir une apparence de partialité et de promouvoir l'ingérence fédérale en culture, notamment après s'être vanté d'avoir obtenu des fonds du gouvernement fédéral. L'animateur Guy Lepage a rétorqué que ces accusations étaient assez graves. Dans le Journal de Montréal, les finances de la campagne à la chefferie du Parti libéral du Québec de Pablo Rodriguez sont sous la loupe d'Élections Québec. Selon une analyse du bureau d'enquête du Journal de Montréal, 14 personnes ayant œuvré pour la campagne de M. Rodriguez ont reçu un paiement forfaitaire identique de 1 000 pour services rendus. 10 de ces bénéficiaires sont des employés ou des personnalités liées au Parti libéral du Canada, dont plusieurs avaient également contribué 500 à la campagne. Élections Québec s'intéresse à ces versements et cherche à savoir pourquoi autant de donateurs ont reçu aussi un montant aussi uniforme. Le PLQ, pour sa part, parle d'une compensation octroyée aux membres de l'équipe de campagne. Dans la presse plus, les municipalités québécoises se voient privées de 166 millions de dollars en 2025. Je vais reprendre l'amorce parce que je l'ai raté. Alors, les municipalités québécoises se voient privées de 166 millions de dollars en 2025 en raison de l'exemption de taxes foncières dont bénéficient les terrains et les bâtiments des institutions religieuses. Une analyse de la presse estime que la Ville de Montréal perd à elle seule 73 millions de dollars, soit près du tiers de son déficit anticipé pour 2026. Cette exemption, dont bénéficient principalement les institutions chrétiennes, remonte à l'époque coloniale et vise des immeubles dont la valeur totale atteint 7,4 milliards de dollars à travers le Québec. Des experts en finances publiques soulignent que ces sommes perdues sont l'équivalent de subventions directes et que le maintien de ces privilèges contraste avec les principes d'un État laïque. Et puis c'est le film Une langue universelle qui s'est imposé comme le grand gagnant du 27e gala de Québec Cinéma. Le long-métrage du cinéaste montréalais Mathieu Rankin a remporté les iris les plus prestigieux, dont celui du meilleur film et celui de la meilleure réalisation. Il totalise 8 trophées en incluant les prix artisans. Vivement ému, Mathieu Rankin a rendu hommage à ses producteurs et au cinéma québécois pour son audace. Du côté des interprétations, Karine Gontier-Heinemann et Patrick Yvon ont été sacrés dans les premiers rôles, tandis que la jeune Marguerite Laurence, 12 ans, est devenue la plus jeune lauréate de l'histoire du gala en remportant la révélation de l'année. Oh, oh, oh. Yeah, daddy, dee-dum. Bientôt ce sera Noël. La neige tombe sur le village et laisse un tapis blanc sur son passage. Un signe du ciel. Bientôt ce sera Noël. Bas de laine pendu au manteau du foyer. Le rêve de tous les enfants, de 4 jusqu'à 99 ans. Le vent siffle de belles mélodies, comme une chorale en harmonie. Chants immortels, bientôt ce sera Noël.
dans le salon. Il porte une étoile qui touche presque au plafond. Le rêve de tous les enfants, de 4 jusqu'à 99 ans. La paix et l'amour emplissent ton cœur. Le temps des fêtes, ça fait le bonheur. C'est officiel, bientôt ce sera.
Bientôt, ce sera Noël, une chanson de Damien Robitaille.
Et on s'en va maintenant, justement, parler de Noël avec Daniel Rioux. Daniel, est-ce qu'on peut célébrer Noël et seul et avoir du fun, avoir du plaisir? Oups! Est-ce que tu es là, Daniel? Ce qu'on va faire, on va aller à la chronique avec Louis, puis on va revenir à Daniel après. J'imagine qu'on va faire ça. Alors, excuse-moi, des problèmes techniques, ça arrive dans toutes les meilleures familles, dont celle de Canal M. Bonjour Louis.
Bonjour Denis.
On va passer à toi tout de suite. En Espagne, licenciée parce qu'elle arrivait trop tôt en avance au travail. Elle conteste puis elle perd en justice. Et ça, c'est vraiment étrange. Hein?
Oui, c'est
Il n'y a que toi pour trouver ces sujets-là en passant.
Exactement. Je vois les titres passer, ça me fait sursauter, alors je les attrape au passage. Mm-hmm. C'est en Espagne qu'on s'en va, effectivement, où on pourrait croire qu'arriver en avance au travail est une bonne chose. Cette histoire nous prouve le contraire. Une salariée, une employée, avait pris la mauvaise, entre guillemets, mauvaise habitude de prendre son poste avec 30-40 minutes d'avance sur l'horaire fixé par son contrat de travail. S'il est admis que des retards répétés dans tout travail peut justifier un licenciement, hein, on s'en doute, vous le premier, si vous arriviez 30-40 minutes en retard à l'émission,
ça serait un problème.
Ça serait un petit peu un gros problème. Eh bien, la réciproque de cet énoncé paraît nettement moins évident. Si on arrive 30-40 minutes à l'avance, c'est plutôt bonne chose. Eh bien, pourtant, pour le tribunal social d'Alicante, il vient de confirmer le licenciement sans indemnité d'une salariée qui avait pris cette mauvaise habitude, se présenter au travail avec 30 à 40 minutes d'avance. La première mise en garde remonte à la fin de l'année 2023, rapporte le quotidien local. Après plusieurs remarques verbales, l'employé d'une société de livraison s'était vu notifier par écrit qu'elle ne devait pas embaucher avant 7h30 du matin. Elle n'avait pas tenu compte de ses consignes pourtant répétées et avait fini par être licenciée pour faute grave. Pour appuyer sa décision, l'employeur avait fait valoir qu'en arrivant si tôt au boulot, sa collaboratrice, dont le travail dépend d'autres salariés, comme souvent dans les compagnies, elle se retrouvait seule en fait et elle n'avait aucune tâche à effectuer pendant ce temps en avance et elle n'apportait aucune contribution à l'entreprise. Le juge du tribunal d'Alicante a reconnu que ces horaires de travail unilatéralement aménagées avaient fini par porter préjudice à l'entreprise. La plaignante a argué, elle a tenté de se défendre, elle a argué que son arrivée matinale du travail était due à une grande charge de travail, sans toutefois, et c'est ce qui a posé problème, pouvoir en apporter la preuve. La conduite de la travailleuse a eu un impact sur la relation de confiance et de loyauté qui est considérablement affectée, car malgré les avertissements de l'entreprise, la plaignante a insisté, a estimé le tribunal. Bon, il faut souligner aussi que c'est pas simplement ça, hein. En plus de son arrivée précoce au travail, l'enquête a révélé que l'intéressé avait également utilisé à plusieurs reprises, de manière frauduleuse, sa signature électronique pour pointer à distance, alors même qu'elle avait déjà quitté son poste depuis plusieurs minutes. Vous voyez, quand on fouille, on trouve d'autres petites choses qui clochent.
Ah bon ?
En définitive, il est considéré que les comportements reprochés à la travailleuse revêtent la gravité et l'importance suffisante pour constituer les fautes graves de déloyauté et d'abus de confiance, de désobéissance qui justifient l'extinction de la relation de travail. Voilà donc une enquête pas comme les autres et ça fait un titre étonnant. Mais donc voilà, la preuve, il semblerait, est que ben, les choses soient dites et bien dites entre l'employeur et le salarié. Et même si c'est en avance, il faut respecter les consignes visiblement.
Morale de cette histoire, on travaille pour soi-même comme je fais. Je suis jamais en retard, jamais trop tôt au bureau parce qu'il est dans mon salon.
Précisément à l'heure.
Mais bon, bon, c'est quand même des histoires étranges. Deuxième sujet, on va en Australie, on retourne à cette fameuse maison.
Allons-y. Exactement, on y était en tout début d'année. Et bien voilà, je fais un petit suivi en cette fin d'année de cette histoire aussi rocambolesque. Cette histoire qui nous interroge en fait à notre rapport à l'argent aussi, parce qu'on se plaît parfois à imaginer qu'est-ce qu'on ferait d'une grosse somme d'argent. Eh bien, la famille en question, les Amites, eux, sont très précisément dans ce cas-là. On parle ici d'immobilier. Certaines maisons, parfois, ont une valeur inestimable, hein, et ce n'est pas forcément une question de surface ou de prestation. La famille Zamit, donc, refuse, et depuis plus d'un an maintenant, refuse catégoriquement de vendre la sienne. Surtout pas à un promoteur prêt à utiliser son terrain pour faire pousser des pavillons sans âme. Voilà pourquoi il refuse. Comme le rapporte le Daily Mail, cette famille possède un beau manoir situé sur une propriété de 20 000 m² à The Ponds, en Australie. Autrefois, elle était entourée de champs et la demeure se dresse aujourd'hui seule, au milieu non pas de champs de végétation, mais de champs de maisons identiques et d'allées pavillonnaires comme on en voit beaucoup ici aussi en Amérique du Nord. Depuis plusieurs années, les promoteurs se succèdent pour tenter d'acheter le terrain. Tous se sont pour l'instant heurtés à un refus, malgré des offres de plus en plus vertigineuses. Il y a moins de 2 ans, la famille a par exemple décliné une proposition à 40 millions de dollars australiens. On parle ici à peu près de 33 millions de dollars canadiens. Eh bien, les enchères augmentent et pour vous mettre à jour, on en est désormais à 60 millions de dollars canadiens. Mais cette offre a connu le même sort, à peu près 55 millions de dollars canadiens pour faire la conversion. Un agent immobilier local s'étonne même en fait de tels montants qu'ils soient atteints. Selon lui, le terrain permettrait de construire à peu près entre 35 et 40 maisons qui seraient vendues autour de 1 million de dollars chacune. Cela reste 10 à 20 millions en dessous de l'offre qui est proposée actuellement. Il estime en fait que les promoteurs misent sur une forte hausse des prix d'ici 5 ans. C'est pour ça que l'offre pour cette maison et ce terrain augmente. En attendant, eh bien, la décision des Amites est largement saluée sur les réseaux sociaux. Beaucoup ne comprenaient pas pourquoi vous refusiez tout cet argent, mais parfois il y a des choses sentimentales dans la vie. L'argent ne fait pas tout, écrit par exemple un internaute. La maison, c'est l'ironie peut-être du sort, avait pourtant été brièvement mise en vente il y a 10 ans, en 2015. À l'époque pour moins $1 million de dollars avant que l'annonce ne soit retirée. Est-ce que c'était à l'époque une tentative pour tester le marché de la part de la famille ou une simple volonté de vendre à un particulier et pas à un promoteur? Le mystère demeure. En tout cas, cette maison qui à l'époque était estimée à moins d'1 million l'est 60 fois plus au moins aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça donne encore des photos étonnantes, surtout vues du ciel. Le manoir reste fidèle à lui-même, 5 chambres, un grand garage familial, un terrain de basket et surtout une valeur sentimentale. C'est la seule grande bande verte. Mmh. Il est complètement entouré d'allées de maisons identiques avec des tout petits jardins. La voie autrefois dégagée sur les terres agricoles est désormais remplie de pavillons flambant neufs et les Amites résistent. On verra s'ils résistent aussi au cours de l'année 2026.
On dit que l'argent fait pas le bonheur.
Eh bien, eux le prouvent.
Moi, des fois, je trouve que ça aide.
C'est sûr.
Merci Louis de Bernis.
Flocons.
Clopelgag, le sentier de neige.
Et puis j'ai le temps de faire quelques petites manchettes encore dans la presse plus aujourd'hui. Le ciel d'Air Transat s'assombrit. Le syndicat des pilotes a déposé un préavis de grève qui pourrait prendre effet dès ce mercredi. D'ailleurs, la compagnie a commencé à annuler des vols dès aujourd'hui là, pour rendre les choses plus faciles à gérer s'il y a un déclenchement de grève. Air Transat affirme avoir offert une augmentation de 59 % sur 5 ans à ses pilotes, mais juge que les demandes syndicales sont déraisonnables. De leur côté, les pilotes soutiennent que leurs conditions de travail sont en deçà des normes de l'industrie et insistent sur la nécessité du débrayage pour faire avancer les négociations. Le dialogue se poursuit en urgence pour éviter une grève qui inquiète grandement les voyageurs, surtout en pleine période des fêtes. Je vous rappelle donc, mon Dieu, dans l'est du pays, il fait froid. Alors, sortez-vous bien emmitouflé, parce que par endroit, on parle de moins 24 avec le facteur éolien, ou du moins le ressenti. Après la pause, on va parler du manoir Diouville qui crée sa première école entreprise en hôtellerie du Québec destinée aux personnes avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. À tout de suite.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Et on va retrouver maintenant Daniel Rioux. Bonjour Daniel.
Bonjour Denis Martin.
Bon, alors on va parler de Noël. Noël, oui. Tout seul.
Ben Noël seul, oui, puis même dans cet article-là, c'est pas mal positif. On va voir des bons angles de
ça coûte
de
moins
passer.
Cher de cadeaux de Noël, ça c'est clair.
Ça peut coûter moins cher aussi, puis habituellement, pour nous Noël, c'est les réveillons, c'est les réunions de famille, mais pour certaines personnes, c'est la solitude. Et dans l'article, ils ont dit pas de panique. Passer Noël, c'est pas la fin du monde. Passer Noël seul, c'est peut-être pas la fin du monde. Puis on peut même donner une petite note positive, ça peut même s'avérer libérateur. Donc, il y a bien des raisons qu'on peut passer Noël seul. Hein. Il n'y a pas d'amoureux ou d'amoureuse, ou encore une séparation, ou encore on a un petit clan, puis l'un et l'autre est éparpillé un peu partout. Un deuil, ou une chicane de famille aussi qui peut faire qu'on se retrouve seul à Noël, ou qu'on a fait le choix d'être seul aussi. C'est sûr que se retrouver seul à Noël, c'est une situation qui peut provoquer de la tristesse, et aussi d'autres sentiments négatifs. Alors, on peut dompter ses émotions. On doit aussi, on doit comprendre aussi pourquoi on ressent ce vide à l'intérieur. Puis la période des fêtes, justement, ben ça nous ramène aussi, ça peut être triste. Aussi parce qu'on peut le comparer, ce Noël triste, à des Noëls d'antan où on avait du plaisir, qu'on a beaucoup aimé. Et il y a aussi des Noëls qu'on a peut-être pu aussi idéaliser. Parce que Noël, c'est rempli d'attentes. Et je pense que l'un et l'autre, tout le monde, on a des attentes face à chaque Noël. Il y a aussi ce qui nous encourage à croire que Noël, c'est grandiose. Bien, il y a la télévision, les cinémas, les ciné-cadeaux, les magazines, les publicités. C'est notre désir le plus cher d'avoir un Noël qui est rassembleur. Et surtout joyeux. Mais la réalité est parfois très différente. Et justement, pour ne pas glisser vers le chagrin, vers la déprime, c'est se prendre les choses en main. Et on peut briser justement ce cercle de la solitude où on apprend à s'en faire une amie. Hein? Et si on faisait briser justement ce statu quo, ça serait pas si mal. Il y a des idées proposées dans l'article, c'est dans Nouveau, cet article. C'est un Noël, profiter, permettre de ressentir ses émotions, entre autres, pour avoir un Noël qui pourrait nous paraître plus satisfaisant. Alors, vous êtes triste, ben vous n'arrivez pas à l'avouer à vos proches. Souvent, on garde ça pour soi, on n'en parle pas. Mais si vous n'en parlez pas, au moins écrivez-le juste pour vous évacuer, parce qu'on dit qu'est-ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc, écrivez-le, donc dites pourquoi vous vous sentez, ça vous rend malheureux, ça vous rend triste d'être seul. Et plus on garde nos émotions à l'intérieur de soi, ben on a aussi tendance, malheureusement, à ruminer. Fait qu'en les écrivant, on se libère et on peut répéter l'exercice au besoin. Aussi, pour que soit on se sente un peu moins triste ou un peu moins seul, établir ce qui nous ferait du bien. Alors, vous désirez rester seul à Noël chez vous et vous aimeriez quand même fêter. Ben, on peut planifier cette journée-là d'aller avoir du plaisir. Par exemple, si vous faites du ski, aller faire du ski, aller au cinéma, s'offrir un bon repas, se concocter un bon repas. Et si vous avez le goût d'aller fêter Noël chez quelqu'un, ben des fois, peut-être quelqu'un de près de vous, vous pouvez lui demander « Est-ce que tu aurais une petite place pour moi? Puis j'aimerais ça pouvoir y aller. » Bah, pourquoi pas? Il y a des gens qui ouvrent leurs portes. Moi, je l'ai déjà fait dans le passé. Une autre façon de fêter Noël sans être seul, c'est faire du bénévolat. Il y a des organismes qui cherchent justement des bénévoles la veille et le soir de Noël. On manque de monde. Alors, il faut oser offrir de son temps et ne pas avoir peur de l'offrir. Il y a aussi, dans l'article, on mentionne le Réseau de l'Action bénévole du Québec. Alors, prenez bien note, Réseau de l'Action bénévole du Québec. Il y a une multitude d'organismes qui demanderaient pas mieux que de recevoir votre offre, de partager votre Noël avec d'autres gens et faire du bénévolat. Il y a une autre proposition, c'est donner à soi-même. Hein? On ramasse des cadeaux pour des gens, mais on peut se faire un cadeau de soi à soi, de moi à moi, et puis l'emballer. Ah ben oui, il faut pas commencer
Je t'interromps, mais c'est toujours le cadeau qui est qui fait le plus plaisir, qui est le plus approprié, c'est quand c'est soi-même qui le donne à soi-même.
Ben c'est justement, c'est parce qu'on sait que c'est ça qu'on va aimer, qu'on recherche. Ouais. On n'est pas mais peut-être qu'on a peur des surprises aussi, hein. Ah. Fait que donc on sait que c'est prévisible celui qu'on s'achète. Alors on l'emballe, on l'ouvre, puis on l'ouvre le jour de Noël, puis peut-être qu'on s'est préparé un petit déjeuner, puis on fait ça, puis on joue le jeu, puis on a du plaisir. Puis se gâter, ça fait du bien. Moi, j'ai une de mes amies qui, le jour de Noël, souvent les enfants autour sa fête, elle va chercher une pile de magazines, là, puis moi, des fois, elle achète ses magazines, mais moi, personnellement, je vais à la bibliothèque, je me prends une pile de magazines, puis tu sais, tu peux t'asseoir, tu lis, puis c'est tranquille, puis c'est agréable. C'est s'arrêter. Pour bien des gens aussi, c'est que il y a toute la planification autour de Noël qui devient pas mal stressante. Alors, c'est peut-être une occasion de prendre soin de soi, puis se dire, ben coudonc, je vais être seule cette année, puis au diable la planification, je me reçois, je vais être bien, je vais être en dehors de ce circuit-là. Et puis, si vous avez de l'argent, ben vous pouvez aussi partir. Il y en a qui ont les moyens, ben vous partez en voyage, vous pouvez faire un voyage, ou encore vous pouvez louer un chalet et puis profiter des joies de l'hiver, ou encore, comme je dis, vous pouvez vous faire plaisir en allant vous chercher des livres à bibliothèque ou aller voir des bons films, puis ça coûte pas plus cher. Donc ça, c'est pour pouvoir profiter de sa solitude, parce que on peut être seul puis il y a une séance être seul et se sentir seul, hein. Donc c'est de s'apporter de l'agrément. Puis il y a une autre chose aussi dans un autre article, toujours dans Nouveau, c'est on parle aussi qu'on a le droit de pas aimer Noël. Alors pourquoi aller offrir une baboune à du monde là quand on n'aime pas Noël? Alors, comme on dit dans l'article, Noël, c'est une période joyeuse, mais dans la vraie vie, malheureusement, c'est pas toujours de même. Et cette période-là des fêtes peut susciter beaucoup de tristesse et d'anxiété et amplifier, c'est amplifié par la pression de se sentir justement heureux pendant Noël puis en paix. Fait que, tu sais, de montrer un visage souriant alors que vraiment, c'est pas ce qu'on veut offrir. Alors, ça peut être triste et anxiogène. Ça peut soulever aussi des souvenirs douloureux d'une année à l'autre. Vous avez mentionné plutôt l'argent, c'est un gros morceau quand on a tendance à faire de l'anxiété aussi, hein. On se voit un peu en concurrence avec d'autres, on dévoile, tu sais, apporter un cadeau puis n'avoir un plus beau que l'autre, s'habiller de façon plus festive, ça peut coincer un peu dans un budget qui est un peu serré déjà. Et il y a aussi les familles, c'est une occasion de pourquoi j'aime pas Noël, ben on se retrouve en famille, puis là, ben moi, ça me crée de l'anxiété, de la nostalgie aussi, mais de l'anxiété, c'est d'être vis-à-vis de quelqu'un avec qui on a eu un conflit pendant l'année, ou encore des conflits qui ressurgissent pendant cette fête-là. Il y a des personnes qui sont toxiques, hein, des gens qui prennent un coup, ou toxiques pour d'autres manières.
Ah, les mononcles, genre.
Ah, les mononcles, les mononcles, tu sais, puis les farces plates, puis il y a les grands disparus, puis je dirais que des fois, dans des réunions famille, moi, je me rappelle, on disait, on sort pas les sujets tabous, l'argent, la politique et tout ça. Donc, il y a des sujets comme ça qu'on ne sort pas ou des vieilles histoires, là. Il y a la surconsommation aussi, hein, de voir toute cette surconsommation autour. On n'aime pas ça. C'est pour ça que Noël, on haït ça pour mourir. Il y a la nourriture et l'alcool. Hein, c'est le temps, justement, des tentations. On mange et des excès aussi. Donc, en tout cas, ça contrevient un peu à nos habitudes. Ben, il y a aussi des personnes qui sont plus fragiles dans le temps des fêtes. Alors, cette période-là ajoute un stress additionnel. D'ailleurs, il y a beaucoup d'experts qui affirment que la dépression tend à s'accentuer durant le mois de décembre parce que les personnes touchées par cette condition mentale, j'aime pas le mot cette maladie mentale, mais plutôt par cette condition mentale, ont beaucoup plus de mal à voir et à éprouver la magie autour d'eux autres. Et puis, c'est rempli de déclencheurs, comme je le mentionnais, et ça ramène à la solitude. Alors, si vous êtes, vous aimez pas trop Noël, puis ça crée de l'anxiété, bien, vous pouvez planifier à l'avance le plus possible. Alors ça peut vous rassurer un petit peu, hein, la manière que vous allez être habillé, puis les cadeaux, mais tu sais, faire ça simple, à votre image, simplifier justement les cadeaux, puis magasiner en ligne. Il y a ne pas viser la perfection. Ça, c'est bien important. Ça n'existe pas. Alors, se donner une chance. Ne pas s'isoler, hein, si possible. Vous pouvez aller prendre une marche en bonne compagnie ou faire un peu de raquette au milieu de la nature ou encore vous retrouver en famille, mais vous sentir mieux quand vous êtes en famille. Conserver des bonnes habitudes aussi pendant le temps des fêtes, ça va vous faire aimer un petit peu plus Noël, à savoir que si vous êtes une personne qui aime faire d'exercice, ben allez-y gaiement, puis vous pouvez faire un petit excès pendant la période des fêtes en mangeant un petit peu plus. Et puis, en terminant, justement, ben on n'a pas le droit, vous avez le droit de pas aimer Noël, toutes les histoires qui sont inventées concernant le Père Noël puis les enfants, puis ça, c'est bien, ça vous ennuie, mais longuement. Puis la bonne nouvelle, parce que c'est pas tout, là, c'est une bonne nouvelle à tout ça, c'est que c'est vite passé, Noël.
Ah oui.
Puis, ben oui, vous allez pouvoir faire surface en janvier sans être bombardé de musique qui vous donne les blues, justement.
Et vous n'aurez pas pris de poids parce que vous avez trop mangé. Non, ça, c'est
non,
pas souvent.
Non, c'est ça. Voilà. Puis, vous avez le droit de pas aimer Noël.
Tout
puis,
à fait.
Fait que c'est ça. Puis, aussi, j'avais des chiffres aussi intéressants.
Rapidement, parce qu'on va terminer, là.
Oui, on va terminer, cher. Il y a l'organisme Les Petits Frères qui offre du réconfort aux personnes âgées isolées parce qu'on estime qu'une personne âgée sur 5 souffre de solitude. Ce sont des chiffres paru dans Véro Noël 24. Mmh. Et selon l'Institut national de la santé publique du Québec, et ça, j'ai été très surprise, 49% des 18 à 24 ans sont affectés par la solitude.
Bon, alors...
Ben
écoute, pensez-y bien à toutes ces fêtes de Noël et toutes les attentes qui viennent avec.
Oui.
Merci beaucoup, Danielle Rioux. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Je crois que j'ai trouvé mon âme sœur. Mon cœur a mal quand il est loin, mon âme pleure. Je t'ai pas rencontré plus tôt. C'est comme ça qu'il faut s'occuper de moi. Tu leur as mis quelle vitesse. Cette émotion en moi est vitale. Femme alpha, alpha, oméga. Dans la vie, je fais des tales. Cette osmose entre toi et moi, tu l'as ressenti, n'est-ce pas? Avec toi, ça coule de source. Mais tu l'as ressenti, n'est-ce pas? Il use de ses charmes, ses yeux me désarment. J'aime ce petit jeu dans le fond. J'use de mes charmes, mes yeux le désarment. J'aime ce petit jeu dans le fond. J'ai capté que j'étais piqué quand je maîtrisais pas du tout mes émotions. Non. Ce moment c'est trop méchant. Oh my god, dépassé par toutes mes émotions. Y'a comme un souci, je suis sa bombe à son bord. Il sauterait pour moi dans tous les cas. Il aime ma poussière. À ce moment, je peux sauter. L'endroit c'est pas du tout son souci. C'est pas son souci. Mon chéri, tiens, me déguister. Je t'ai la bouche bien, bien aiguisée. Cette osmose entre toi et moi, tu l'as ressenti, n'est-ce pas? Avec toi, ça coule de source. Mais tu l'as ressenti, n'est-ce pas? Il use de ses charmes, ses yeux me désarment. J'aime ce petit jeu dans le fond. J'use de mes charmes, mes yeux le désarment. J'aime ce petit jeu dans le fond.
Aya Nakamura, une chanson qui s'appelle « Désarmé ».
Définitivement pas une chanson de Noël cette fois-ci. Hein. Alors, ben voilà, le manoir, l'hôtel Manoir Diouville a créé la première école d'entreprise en hôtellerie au Québec, destinée aux personnes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme ou une déficience intellectuelle légère. Situé sur l'île Saint-Bernard, à Châteauguay, en bordure de la rivière Châteauguay et du lac Saint-Louis, le manoir Diouville est considéré comme un centre de villégiature exceptionnel. Son directeur général, Jean-Marc Côté, vient de remporter deux distinctions majeures, employé de l'année au prix Excellence Tourisme du Québec et au prix Tourisme canadien. Wow! Bien, bienvenue à l'émission au quotidien, M. Côté.
Merci beaucoup, c'est super gentil.
Qu'est-ce que ces prix représentent-ils pour vous personnellement et pour l'équipe du manoir Diouville?
Écoute, c'est très, très gros pour nous parce qu'on est un hôtel un peu à part des autres. J'ai voulu faire un hôtel là, qui était axé beaucoup vers l'inclusion, la diversité. On fait beaucoup de projets là, avec la communauté. Moi, je redonne 100 000 $ à la société avec 20 organismes. On essaie de couvrir un petit peu tout là, les problématiques. Fait que c'est rare un hôtel qui redonne ses profits comme ça. Et on a parti une école entreprise aussi là, qui nous a donné vraiment une façon différente de faire les choses. Fait que pour l'équipe, hein, c'est un gros plus, c'est cette reconnaissance-là, parce que ça nous donne une petite tape dans le dos de dire, ben, regarde, on est dans la bonne direction, puis on voulait un peu comme réinventer l'hôtellerie, hein, qui était plus une hôtellerie qui était main dans la main avec la communauté. Et de redistribuer ses profits aussi. Donc, fait qu'on veut être un certain modèle et montrer qu'on peut faire les choses différemment, qu'on peut faire de l'argent, puis en même temps, bien, de donner au suivant.
Mais justement, concrètement, comment cette école entreprise fonctionne-t-elle au quotidien là, pour les personnes qui vivent avec un trouble du spectre de l'autisme ou une déficience intellectuelle légère?
Oui, ben j'ai pris une entente avec la commission scolaire et tu sais... C'est rare qu'une commission scolaire puis une école sortent de leurs écoles. Fait qu'ils ont accepté qu'on fasse ce projet-là avec eux. Fait qu'on a sorti une classe de l'école, on l'a mis ici à l'hôtel. Donc, l'enseignante vient faire son parcours académique avec les étudiants. Et il y a un éducateur spécialisé qui est avec eux aussi. Et dans les deux journées et demie, on les met dans différents départements à l'hôtel. Fait qu'ils peuvent mettre en pratique là, qu'est-ce qu'ils ont appris à l'école. Et d'être dans un milieu de travail, puis de travailler avec les différentes personnes. C'est des gens qui ont spectre de l'autisme, de la déficience intellectuelle légère. Mm-hmm. Fait que on avait un petit peu, on disait, mon Dieu, ça va-tu fonctionner? Comment que les clients vont réagir aussi avec cette dynamique-là? Mais honnêtement, c'est juste du bonheur quotidien. Là, on voit qu'ils ont tellement progressé. Tu sais, j'ai pris du jour 1 à aujourd'hui. Là, c'est hallucinant le parcours qu'ils ont. Puis, tu sais, on pensait que, tu sais, les autistes, là, qu'il fallait que ça soit toujours routinier, qu'il fallait pas trop bouger leurs attitudes. Mais, tu sais, ici, on a plein de monde de partout. Puis, tu sais, chaque jour est différent. Différente. Fait que... ils sont super contents. Là. Ils ont évolué à une vitesse grand V.
Mais c'est démontré, hein, d'ailleurs, que les personnes qui souffrent de troubles du spectre de l'autisme et même et aussi en déficience intellectuelle légère, c'est des personnes qui peuvent très bien travailler. C'est juste qu'on... Je pense qu'on a... C'est des préjugés de la société, hein, plus souvent qu'autrement.
Qui fait que
ça, ouais. Parce que vous avez l'expérience, hein, c'est ça.
Ah oui, vraiment. T'sais. Puis même mes employés, aussi, j'ai eu à les convaincre. Hein, je peux pas faire ça tout seul.
Non, c'est l'ouvrage.
Disaient,
c'est bon.
Oh mon Dieu, ça va nous donner un surplus de travail. Ils seront pas capables. Puis, mais c'est sûr qu'au début, ça prend un petit peu plus de temps là, de mettre les choses en place. Mais quand ils sont bien encadrés, qu'il y a de l'amour, qu'il y a une flexibilité aussi, après ça, ça devient mes mains. Des super bons employés, ça devient mes... Des bons ambassadeurs sont tellement fiers d'être ici, puis de travailler, puis ça calme aussi les équipes. Ça, c'était une chose que je m'attendais pas. Mm-hmm. Parce que, tu sais, en cuisine, c'est pas un milieu qui est facile, mais les gens se gardent une petite gêne, comme on dit.
Ouais.
ils pognent les nerfs un petit peu moins, ça calme tout le monde, puis... Ça relativise aussi des choses. Là, nos petits problèmes prennent une autre dimension quand tu vois ces gens-là qui auraient pu être beaucoup plus malheureux que nous puis qui ont une pureté puis une joie de vivre qui nous contamine. Mm-hmm. Fait que, honnêtement, ça a vraiment changé beaucoup ma place puis ça m'aide à garder mon monde plus. T'sais, on cherche toujours une façon d'éviter de chercher des nouveaux employés, surtout avec la crise de la main-d'œuvre en hôtellerie.
Tout à fait.
Mais tu as vu, cette année, j'ai eu un taux de rétention de 91%, fait que ça a été vraiment écœurant. Là,
Je vais revenir sur ce que vous avez dit, parce qu'au départ, il a fallu convaincre les employés. Parlez-moi un peu comment c'était d'abord les défis là, d'implanter ce programme-là dans votre hôtel.
C'est sûr que c'est un défi parce que c'est sûr que l'hôtel est déjà occupé d'avance. Puis chacun a leur défi dans leur département. Puis ils se disaient, ben là, tu nous rajoutes encore d'autres choses. Puis on va être obligé de s'occuper de ces gens-là. Puis s'il y a des crises, qu'est-ce qu'on va faire? Quel support qu'on va avoir? Puis c'était de les rassurer aussi, de leur montrer que moi, j'étais là aussi et que... Il y a une enseignante qui est là sur place, puis qu'on est là pour faire avancer les gens, puis c'est de redonner aussi à la société, hein, de regarde, moi, je viens travailler, oui, pour ma paye, mais je viens pour d'autres choses aussi. Et ça n'a pas de prix, ça, d'avoir ce feeling-là, de regarde, moi aussi, je peux avoir un impact, oui, hein, dans ma société, je peux avoir un impact à tous les jours, puis ils te le redonnent tellement aussi après.
C'est une belle reconnaissance. Hein.
Ils ne ratent jamais, eux.
Oui, c'est une belle reconnaissance. Ouais, ouais. Quand les employés vous le disent qu'ils sont heureux, c'est toujours une belle reconnaissance. Je vais vous amener à parler du fait que l'Université de Sherbrooke a développé le programme PEPS, je ne sais pas, P-E-P-P-S, là, en s'appuyant sur votre modèle. Comment vous voyez ça comme cette reconnaissance académique? Ça en est une autre, ça?
Oui, je suis tellement fier. Je me dis, tu sais, moi... de montrer aux autres que ce modèle-là peut faire des petits aussi dans d'autres entreprises. Puis c'est un petit peu le but aussi de montrer, oui, en hôtellerie et restauration, mais d'autres, une usine ou peu importe, qui peuvent faire la même chose que ce que j'ai fait. C'est pas si demandant que ça. Là. Puis eux aussi peuvent avoir un effet multiplicateur. Fait qu'avec l'université, on travaille encore conjointement actuellement. On engage un chercheur ensemble, les deux. Et on est en train de faire une étude qui ont été chercher un chercheur international qui était plus en Europe, de montrer qu'est-ce qui est fait ailleurs dans le monde et nous, qu'est-ce qu'on a fait ici. Et de voir, regardez, maintenant, il y a ça comme conséquence, il y a ça comme modèle. Fait que faites oser, puis faites la même chose des autres entreprises. C'est ça qu'on veut faire, c'est ça qu'on veut se doter de chercheurs qui vont nous montrer, regarde, le modèle qu'on a fait ici, là, il peut être... dupliqueter à d'autres entreprises, à d'autres places. Puis voici la marche à suivre pour le faire. Puis tu sais, il y a de la flexibilité là-dedans, mais tu sais, ça montre que tout le monde peut le faire aussi. Puis ces gens-là ont une place aussi à avoir dans la société. Puis tu sais, moi, je recevais beaucoup d'appels de parents qui me disaient, je sais pas qu'est-ce que mon enfant va faire après l'école, il n'y a pas d'avenir. Puis tu sais, puis des voir que leurs enfants ont gradué autant, puis qu'ils ont évolué, puis que maintenant, ils ont un avenir. Moi, j'en engage, puis il y en a d'autres qui vont vers d'autres milieux. Fait que tu vois que si tu leur donnes la place, tu leur donnes les outils, ben ils peuvent aussi grandir là-dedans puis occuper une place dans la société. Puis tu sais, moi, quand j'étais plus jeune, je trouve qu'il n'y avait pas autant de monde qui avait le spectre de l'autisme qu'aujourd'hui. Puis je vois mes amis et tout ça, puis tout le monde, on a quelqu'un qu'on connaît qui a un enfant qui a ce spectre-là. Et je me disais, mais my God, c'est beaucoup, là.
Oui, on diagnostiquait peut-être pas autant par le passé parce qu'on connaissait vraiment pas ça, hein?
Oui, c'est sûr, ça c'est clair.
Mais c'est ça.
Mais moi, ça me touchait beaucoup. Puis moi, j'étais un ancien éducateur spécialisé, que je suis retourné à l'école après ça, en hôtellerie. Je me dis, regarde, moi, je veux faire ma marque aussi, puis je veux montrer que hein, tout le monde peut avoir une place, puis eux aussi. Et c'est ce qu'on a fait. Là. Puis avec l'université, on a une super belle collaboration, vraiment très bien, très belle. Et même avec eux, on est en train de développer des bières. On va ouvrir une microbrasserie. Et on a un appel à la population. On va avoir une bière pour les gens qui ont le spectre de l'autisme, pour la santé mentale et les immigrants. Et on demande à chacun de nous proposer des dessins. Et on va choisir après ça là, le dessin pour chaque catégorie qu'on va apposer sur la bière. Et on va faire des projets là, avec chaque groupe comme ça. Fait que, c'est toujours de montrer, d'être inclusif puis d'embarquer les gens avec nous. Et d'avoir le plus de retombées possibles. Fait que on est super fiers vraiment là. Et tu sais aussi avec l'université, je voulais montrer que des entreprises privées, on peut travailler avec l'université, puis ça nous mène ailleurs aussi vers l'innovation, vers d'autres aspects qu'on n'a pas vus. Puis ça, il faudrait que les entreprises voient ce côté-là aussi de s'allier avec des chercheurs comme ça, avec des écoles, parce que ça nous fait revoir nos procédures, puis de revoir notre développement d'affaires qui est différent, puis d'être axé plus sur l'humain que d'être toujours en train de voir le profit au bout du compte. Oui, le profit est là, mais hein, c'est un doux mélange. Et les gens aussi de la région, maintenant, ils ont un attachement ici, une fierté, avec les prix qu'on a eus aussi. Il dit, ben, regardons, un hôtel comme la nôtre, qui est un petit hôtel, qui n'est pas un 5 étoiles, qui n'est pas une chaîne, on se rend jusque-là, puis même au niveau canadien, c'est exceptionnel. Moi, je pensais jamais d'être rendu là dans ma vie.
En tout cas, Jean-Martin Côté, directeur général du manoir, l'hôtel Manoir d'Youville. Merci beaucoup, puis encore félicitations pour ces prix.
Hey, merci beaucoup. Passez une belle journée.
Au revoir.
Salut. Bye bye.
Dans Radio-Canada.ca, une nouvelle initiative vise à briser les barrières pour les artistes issus de groupes sous-représentés dans le secteur francophone albertain. Ben oui, l'Alliance Jeunesse-Famille de l'Alberta lance le projet Ensemble, faisons la différence pour favoriser la diversité et l'inclusion dans les arts. L'objectif est d'écouter ces artistes pour comprendre pourquoi ils hésitent à s'impliquer et de leur donner plus de visibilité. Selon Raphaël Frenette, directeur du regroupement artistique francophone de l'Alberta, c'est une occasion de réflexion collective pour s'assurer que tout le monde ait sa place et se sente le bienvenu dans nos activités. Et puis, les soins psychiatriques au Québec prennent une nouvelle direction dans la presse, celle du traitement intensif, bref, à domicile, une approche qui se dessine comme une voie d'avenir pour désengorger les hôpitaux. Ce programme, développé en 2022, permet aux patients en crise qui seraient normalement hospitalisés d'être soignés chez eux, près de leurs proches. Une équipe de soignants peut se rendre chez les patients jusqu'à 3 fois par jour pour administrer la médication et offrir un suivi psychologique, un accompagnement salué par ceux qui en bénéficient. Selon Santé Québec, l'objectif n'est pas seulement économique, mais surtout de permettre aux personnes de se rétablir dans un cadre plus humain sans subir la stigmatisation liée à une hospitalisation en psychiatrie. Après la pause, on va parler de l'état du Québec, cette publication donc qui fait un peu le tour des défis à relever hein, en 2026. On va en discuter donc avec la co-directrice Lily Jacob.
Écoutez au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Chaque année, c'est un rendez-vous important pour mieux comprendre les enjeux et les débats qui animent notre société. L'État du Québec 2026, la publication annuelle de l'Institut du Nouveau Monde, est en librairie. Et pour en discuter, nous accueillons Lily Jacob, co-directrice de ce livre de référence. Bienvenue à Canadem, Lily Jacob.
Bonjour, merci.
Merci d'être là. Lily, en quelques mots, c'est quoi l'objectif premier d'une publication comme ça là, pour l'Institut du Nouveau Monde et comment ça contribue au renouvellement des idées?
Oui, bien c'est ça. En fait, l'État du Québec, c'est une publication annuelle qui a un peu pour ambition de contribuer au débat public de manière éclairée, informée, mais aussi accessible. Ça prend la forme d'un collectif, donc c'est un recueil de 20 courts essais d'autrices et d'auteurs de milieux variés. En fait, le but, c'est de faire un collectif qui va être une revue d'actualité de ce qui s'est passé dans l'année, puis les effets que certains enjeux peuvent engendrer ou engendrent en ce moment même. Alors, donc, au-delà de ça, c'est aussi un espace de réflexion qu'on veut offrir, donc créer des rencontres entre les idées, entre les auteurs, autrices et la population. J'aime aussi l'idée de faire le pont entre le politique et les décisions publiques, peut-être, et entre les citoyens et citoyennes de la société civile. Donc, c'est une bonne occasion de s'arrêter puis de réfléchir sur des angles un peu plus, peut-être, différents de ce qu'on voit là, dans les fils d'actualité sur les enjeux. Là.
Je lis chaque année, puis à chaque année, je suis tellement surpris de voir, mon Dieu, c'est vrai qu'on est rendu là. Puis je pense que vous mettez des mots sur ce qu'on vit hein, dans la société.
Mm-hmm, exactement. Puis c'est ça. À chaque année, on essaie de trouver un thème, donc un fil conducteur pour peut-être décrire puis regrouper un peu ce qui se passe. C'est sûr que c'est pas évident. Ouais. Cette année, par exemple, c'est ça le thème du temps. L'idée, c'était de voir un peu face à justement les bouleversements qu'on vit, l'état de notre démocratie, de celle de nos voisins, l'espèce de sensation d'accélération du temps, tout va super vite. En fait, on se posait la question, on voulait voir un peu est-ce qu'il y a un bon moment pour agir? Est-ce qu'il y a des bonnes opportunités? C'est quand? Comment on réagit aussi face à ces transformations-là? Donc, avec ce regroupement-là, finalement, on voit qu'il n'y a pas de réponse. C'est pas noir ou blanc. Il y a des angles, il y a des nuances aussi. Puis ce qui est intéressant, ce qui nous a beaucoup enchantés avec Sandra Larochelle, la co-directrice avec moi, c'est de voir que finalement, il y a des multitemporalités. Il y a plusieurs rythmes différents.
J'avais pas vu cette question-là, mais en le mentionnant, ça me fait rappeler, je pense que c'est Stéphane Paquin qui a écrit le texte, négocier avec le Trump 2.0, est-ce qu'on fait maintenant ou on attend? C'est intéressant comme analyse.
Exactement, c'est ça. C'est de faire le parallèle entre la vitesse souvent avec laquelle on a tendance à agir, puis de peut-être pour certains enjeux, au contraire, ça nécessite de prendre le temps, de s'arrêter, de ralentir un peu. Donc oui, le texte de Stéphane Paquin, c'est un bon exemple de ça. On en a d'autres aussi, là. Par exemple, le texte sur l'éducation, penser donc le développement d'un système ou d'une culture de l'éducation, ça se fait sur le long terme parce que l'éducation est aux prises un peu avec des problèmes épineux qu'on appelle, donc c'est qui n'ont pas des réponses exactes ou des réponses qui se font du jour au lendemain. Donc ouais, effectivement, c'est ça, c'est on se rend compte que finalement pour plusieurs enjeux, il faut prendre en considération la temporalité des fois nuancée, donc pas toujours aller dans la rapidité puis dans l'exécution là, comme les négociations par exemple.
Je me ramène à votre travail, comment avez-vous quel a été votre rôle dans le choix, dans la mise en place de tous ces articles très intéressants qui sont publiés dans l'État du Québec?
Mm-hmm. Ben, c'est sûr que, par exemple, pour le choix du thème, on est chanceux à l'INM, là, à l'Institut du Nouveau Monde, parce que au quotidien, on fait des exercices démocratiques auprès de plein de gens, de plein de façons. Que ça soit dans des ateliers, dans des écoles secondaires au cégep, ou des consultations publiques avec des municipalités, on est de près avec les enjeux sociaux, on est connecté avec ce que les gens vivent au quotidien. Donc, ça nous donne une bonne impression où on est un peu conscient de ce qui se passe autour de nous. Puis, avec ça, bien, ça nous permet de dresser peut-être un portrait plus large, puis au fil du temps, pour faire un jeu de mots,
Non, c'est correct.
le thème se concrétise. Donc, c'est ça, on y réfléchit assez tôt dans le processus. Par exemple, on est déjà dans le processus de la prochaine édition, même si le livre vient de sortir. Puis, on essaie de vraiment d'avoir un sujet assez large pour pouvoir toucher plusieurs sujets. Puis ensuite, on va se faire un peu une tempête d'idées des différents sujets qui ont marqué l'actualité dans l'année. Puis, peut-être des auteurs et autrices potentiels pour aborder ces enjeux-là. Donc, notre rôle, ça va être un peu de les accompagner dans leur réflexion. Donc, on leur présente le fil conducteur, mais après, c'est vraiment à eux et elles de s'approprier le thème comme ils l'entendent. Donc, selon leurs expertises, leurs connaissances, ben parfois, ça va être de tisser un lien plus ou moins étroit avec le thème. On le voit dans certains textes, des fois, le thème est plus évident ou plus fort, plus explicite que d'autres. Mais il y a quand même, je crois, on est assez fiers de ça, que le fil conducteur est assez présent, puis il y a des liens entre les thèmes aussi, les liens se parlent. Donc c'est ça, on accompagne les auteurs-autrices, on essaie de les aider à peut-être vulgariser un peu plus certains sujets qui sont plus complexes,
Oui, parce
de
que
peut-être...
ça c'est la clé, hein, parce que vous avez des gens, tu sais, hyper spécialisés qui vont écrire, puis il faut s'assurer que ça soit accessible à tout le monde.
Exactement, c'est ça. Puis surtout, pour un thème aussi large, puis des sujets qu'on adresse, par exemple, l'intelligence artificielle, qui peut être assez poussée comme sujet, ben notre but, c'est d'avoir un collectif qui est intéressant, accessible, vulgarisé, qui va pouvoir intéresser vraiment un large public. Puis de peut-être, si c'est justement de faire des liens entre les textes qui se font naturellement au final, mais par exemple quelqu'un qui s'intéresse à la politique va s'accrocher les pieds dans le texte suivant qui est peut-être plus sur la psychologie qui l'aurait moins été porté à lire par exemple. Donc de varier un peu les thématiques comme ça. Donc oui, on a une variété de sujets pour être un peu plus accessible. C'est sûr que c'est pas parfait. On essaie aussi d'avoir des auteurs-autrices variés,
Oui.
des universitaires, journalistes, etc. Puis dans cette édition, cette année, je pense qu'on a un bon exemple d'un contenu qui aborde justement l'accessibilité et les inégalités, là, si je pense justement au texte de Geoffroy Boucher sur
Oui.
les inégalités sociales, la distribution, redistribution de la richesse. On a par exemple le texte de Diane Lamoureux aussi sur l'antiféminisme qui donne une bonne compréhension des dynamiques de pouvoir entre hommes, femmes ou les défis collectifs qui engendrent la montée des discours masculinistes. Donc on a beaucoup de sujets aussi qui
Beaucoup de
adressent.
sujets à réflexion. Je voudrais
Exact.
vous amener, parce que chaque fois aussi, l'INM fait un sondage ou commande un sondage. Cette année, c'est un sondage CROP exclusif qui révèle que 53 % des Québécois sentent que la société nous pousse à aller trop vite. Wow! Alors, c'est quoi les grandes tendances qu'on a pu trouver, grâce à ce sondage-là?
Ben, au-delà du sondage aussi, je pense que c'est les autres textes qui nous ont
Oui.
apporté un peu cette compréhension-là. Oui, effectivement, ça, c'est des données qui nous ont beaucoup marqués, puis on le voit aussi à travers dans le fil d'actualité que on a l'impression que ça va vite, tout va vite, les politiques publiques, les décisions publiques sont prises rapidement. Puis c'est peut-être, ça a justement été un peu notre prémisse de base de voir comment on agit face à ça, comment on peut répondre à ces enjeux-là dans cette rapidité-là. Aussi avec la démocratie qui va pas très bien en ce moment, on va se le dire, qu'elle n'est pas en santé. Donc, c'est peut-être un bon moment justement pour pousser pour des initiatives, réfléchir, se réunir. Puis, le livre offre ça justement. Donc, il n'y a pas nécessairement de solution à tout, on s'entend. Mais je pense que dans l'idée générale, justement, c'est Plusieurs textes nous invitent à ralentir. Et ça fait écho au premier texte, justement, là, sur le sondage. Par exemple, ralentir pour observer le passé puis penser aux générations futures. On le voit dans le deuxième texte avec Laurie Rousseau-Neptune, l'astrophysicienne. On a aussi l'idée de ralentir, comme je mentionnais tantôt, pour développer des politiques puis un système éducatif qui est adapté sur le temps long. Négocier, entretenir des liens diplomatiques, des liens de confiance à l'international, ça demande du temps aussi de ralentir. Je trouve aussi intéressant, par exemple, l'avant-dernier texte, je pense, sur la création des milieux de vie adaptés dans nos villes. On a l'exemple de la ville de Mégantic qui a été certifiée Citaslow. Donc, c'est une ville en fait, c'est une certification qui nous invite à ralentir puis à réfléchir à une ville qui soit adaptée. Donc, je pense que c'est cette idée-là, justement, de peut-être prendre le temps. Puis, globalement, le livre en tant que tel, c'est une invitation à ralentir, à s'arrêter puis à réfléchir.
Bien moi, je dois dire que cet article sur Mégantic, puisque j'ai vraiment couvert ça dans une autre vie quand j'étais journaliste à Radio-Canada, j'ai été appelé à beaucoup couvrir cet événement-là, comment est-ce que la ville a changé. Puis effectivement, ça m'a beaucoup marqué, ce texte-là. Bien, écoute, on va terminer ici, Lily Jacob, co-directrice de l'État du Québec 2026, donc qui est paru aux éditions Somme Toute, c'est toujours en librairie. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
Merci à vous. Bonne
Merci, au
journée.
revoir.
Au revoir.
Ariane Simard, traverser les saisons.
Un beau Noël blanc comme dans le temps, là.
T'aimes pas Noël?
J'haïs pas Noël.
Mais moi, j'adore Noël.
Mélissa massacre à la porte.
Elle veut pas que je passe le réveillon avec elle et les enfants.
Valentine, je peux pas t'amener.
Xavier, je te préviens, si je reste toute seule ce soir, ça va te prendre.
Ben, tu fais très comment dans l'histoire?
Je m'en viens. Ça me prend juste une adresse.
À quelque part, je l'aime, ma famille.
Oh mon Dieu, je pense que c'est elle. Lui, c'est plus une fille.
Allô? Lui, c'est Xavier. Moi, c'est Valentine.
C'est un travesti non-genré. Je pense.
Ah, hey, ça doit être Ariane.
Allô, ma belle.
Il n'y a plus rien qui me surprend.
Attache ta
tuque. J'ai déjà porté une tuque, moi aussi.
Répète-moi ça, là. Faut-tu changer de sexe pour avoir un peu d'attention ici?
Elle savait que ça serait compliqué, moi.
Aux femmes!
Aux hommes! Aux deux!
Moi, je fais les deux en alternance.
T'es encore ma petite fille.
Vous êtes vraiment une belle famille.
C'est mon fils flamand neuf.
Mettons que c'était pas mal plus simple dans notre temps.
C'est toi qui le dis.
Ah, ça, c'est une des répliques assassines de ce film que moi, j'ai vu en visionnement de presse. Il s'agit donc de la bande-annonce du film Juste Xavier, qui met en lumière une réalité importante, l'acceptation et le retour en famille après une transition de genre. Nous accueillons en studio le réalisateur Stéphane Heurois.
Bonjour.
Et l'acteur principal Alexis Comte, qui incarne Xavier. Je vais laisser le temps à Alexis de s'asseoir. Ça arrive, hein, le trafic à Montréal, des fois, ça nous joue des tours. Bienvenue tous les deux
Bonjour.
Je vais lancer le sujet, puis je pense que Stéphane va répondre en premier, puis Alexis pourra aller parce qu'il va reprendre son souffle.
Oui, s'il te plaît, je viens de courir un kilomètre.
Xavier nous plonge dans un réveillon de Noël explosif. Écoute, c'était tellement... Ça, c'était très drôle. Un homme trans revoit sa famille bourgeoise 3 ans après sa transition. En quelques mots, Stéphane, pourquoi avoir choisi le huis clos de Noël comme cadre pour aborder cette thématique?
Bien, c'était avec la co-scénariste Christiane, c'était quelque chose qu'elle avait vécu avec son propre frère, mais je trouvais, et quand elle m'a amené l'idée, je me suis dit, c'est merveilleux, parce que un trans qui arrive dans une fête qui est complètement classique, la fête qui est de Noël.
Puis sa meilleure amie non-binaire qui est
arrivée
ensemble.
C'est ça. Okay, puis donc, tout ce contraste-là entre les traditions puis quelque chose de complètement nouveau, là, qu'on s'adapte avec les personnes qui transitent, ben c'est ça qui m'intéressait, de voir une famille normale réagir à ça dans le mieux qu'ils pouvaient, mais avec tous leurs défauts, toutes leurs erreurs.
Les maladresses sont
incroyables. Et les maladresses font partie du sujet, là, ben tu sais.
Ben Alexis, justement, je peux le dire, t'es un homme trans.
Oui, tout à fait.
Et donc, est-ce que c'est quelque chose qui ressemble à ce que t'as déjà vécu par hasard?
C'est presque identique.
Arrête! Oui.
Ben, c'était ça un peu qui était, comment je pourrais dire, justement, quand j'ai rencontré Stéphane la première fois, quand je suis allé passer mon audition, que j'ai lu le scénario, puis j'ai dit, écoute, je me retrouve tellement en Xavier, en fait. Toutes les espèces de situations que Xavier vit tout au cours du film, je les ai toutes vécues, bon, un petit peu différemment quand même, mais je les ai toutes vécues pour vrai. Donc, les émotions, aussi comment la famille réagit. Bon, c'est sûr que moi, j'ai quand même eu la chance que ma famille m'accepte tout de suite, là. C'est sûr qu'il y a eu des petits malaises, moi aussi, là. Mais moi, j'ai eu cette chance-là. C'est pas la chance de tout le monde. Xavier, lui, ça a été plus dur, mais après un petit break de 3 ans, c'est là qu'on se retrouve, justement. Puis, oui, j'ai pas mal tout vécu ça, un peu différemment, mais honnêtement, je me retrouvais vraiment beaucoup en Xavier.
C'est comment jouer avec, il faut que je le dise, c'est comment jouer avec Rémi Girard. C'est quand même lui, puis en fait, on peut dire aussi France Castel, c'est des icônes du cinéma québécois.
Ben en fait, j'ai déjà dit à Rémi que je m'attendais jamais un jour à être dans une chaloupe avec Rémi. Tu sais, j'ai dit ça dans la chaloupe. Qui aurait cru, ben en fait, c'est pas ça que j'ai dit, qui aurait cru qu'un jour je serais avec Stan dans une chaloupe? Puis il m'a dit, dans mon livre à moi, il n'y a rien d'impossible. Mais non, honnêtement, c'était super. C'était une aventure. Écoute, Rémi Girard, c'est sûr que bon, c'est impressionnant, France aussi, mais tu sais, France est tellement maternelle que dès la première rencontre, elle m'a dit « Mon Xavier, mon fils! » Puis elle m'a pris dans ses bras, puis elle m'a dit « Je vais être ta maman là, pendant 2 semaines. » Tu sais, fait que tout de suite, la glace a été brisée. Puis Rémi, écoute, oui, un peu impressionnant, c'est sûr, mais écoute, tu y parles, tabarouette, qui est hot, ce monsieur-là. En tout cas, moi, pour moi... c'est du monde. En tout cas, ils m'ont coaché, puis ils m'ont pris sous l'oreille, puis ça a été vraiment une aventure.
C'était ton premier grand rôle au cinéma aussi.
Mon premier rôle, en fait.
Premier rôle, wow. Ouais. Stéphane, l'intention de ce film-là, c'était vraiment de faire une comédie dramatique.
Oui.
Comment on réussit à faire ça sans trop caricaturer, bien qu'il y a de la caricature dans le
oui,
film,
effectivement.
Mais elle n'est pas si caricaturale que ça. Non. C'est compliqué, hein?
Non, c'est ça. Il faut rester juste. Mais dans la comédie, on se permet de pousser un peu les traits pour que ça soit comique. Je pense à Babette, jouée par Isabelle Blais, oui. qui est excellente, mais qui était vraiment une parodie un peu d'une théâtreuse là, qui se prend au sérieux. Mais tout ce côté-là est vraiment important pour l'humour, mais il faut rester... à ancrer dans les émotions. Donc, les émotions sont vraies. Par contre, même s'il y a des petits passages où là, c'est un peu plus caricatural volontairement, mais toute l'émotion, tous les sentiments sont véritables, sont vécus véritablement, et la montée vers la fin avec la tension entre la mère et le fils, et finalement le père qui enveloppe son fils parce que enfin il y a un gars parce qu'il y avait trois filles avant.
Ça.
Là, il est super content. Mais tout ça, là, ça mène vers un drame à la fin, puis vers une éclosion très émotive et aussi un feeling Noël, good movie. Là, genre, oui. Ça finit bien, puis on est heureux de ça. Mais je ne devrais pas le dire que ça finit bien, je vais le punch un peu.
Ben là, on s'attend à ça, c'est un film de Noël.
C'est un film de Noël. Ouais,
c'est, ça. Punch, c'est ça, je vois pas tant le punch.
Mais il y a quand même des choses, quand je parle de caricatural, mais il y a quand même des choses qui ne devraient pas être faites, qui sont dans le film. Puis je pense que ça devient intéressant de le voir, qu'est-ce que ça donne comme résultat. Maurice nommé la personne trans.
Nommer
l'ancien nom.
Ok.
Il
l'appelle Julie tout le temps.
C'est passé la première fois que j'entends le terme en français.
Dead name,
j'ai toujours dit dead name. Ah ouais, écoute, tu m'as pris par surprise. Oui, ben écoute, justement, quand on se fait Maurie
nommer. Nommer, oui.
Ouais, ouais, non, c'est sûr que ça vient. Moi, quand j'entends mon ancien nom, même si aujourd'hui, je l'entends plus vraiment, il n'y a plus personne qui m'appelle de même, là. Ouais. Mais quand je l'entends et c'est quelqu'un d'autre, ça vient quand même encore me faire quelque chose. Donc oui, effectivement, c'est sûr que Xavier, lui, quand il l'entend, puis là, c'est à répétition, hein, c'est à répétition.
Ah oui, moi, je sais, le peu de poils que j'ai sur les bras me retraçait à tout bout de champ quand j'entendais ça.
En fait, c'était le but.
C'était le but de montrer que cette erreur-là est grave.
Ouais. Est difficile
pour ces personnes-là, mais que des gens la font, mais... pas de mauvaise foi, des fois, c'est juste qu'ils sont pas encore habitués, ils sont pas... Fait qu'il faut faire attention des deux côtés, là, un peu. Faut pas non plus à juger ceux qui font l'erreur et non plus penser que c'est correct de l'appeler de l'ancien nom, tu sais, que cette personne-là avait avant sa transition.
Ça, c'est un bout de tof.
C'est ça.
C'est pas mal intentionné. Puis c'est là que ça m'amène à une des thématiques du film. Est-ce que, finalement, la transition de genre, c'est plus important ou moins important? Ce qui est important, au bout du compte, c'est l'amour inconditionnel de la famille?
Écoute, moi, je te dirais que l'important, c'est d'être bien.
Oui.
Donc, je peux parler par connaissance de cause. J'ai plein d'amis qui ont vécu des situations complètement différentes avec leur transition. Puis, écoute, il y en a que ils ont été obligés de faire le choix, la famille ou la transition.
Ah ouais, ça, c'est moins drôle.
Ouais, ben, tu sais, mais en même temps, s'ils ne faisaient pas la transition, on les aurait retrouvés fort probablement sans vie quelque part. Donc, ils ont choisi de faire la transition.
Le taux de suicide chez les jeunes personnes trans, c'est assez élevé.
Voilà.
Ouais. En fait, le film, ce qu'il dit, c'est que le support des autres êtres humains autour de toi, dont la famille, est important pour être capable de faire ça. Puis aussi, c'est important de laisser les gens vivre leur vie comme ils veulent, puis comme ils se sentent bien. C'est important que des gens autour de toi se sentent bien. Alors, qu'est-ce que tu peux faire pour qu'ils se sentent bien? C'est un peu ça, Noël.
Ben oui.
C'est un peu ça, le aussi, Rémi Gérard, là-dedans. Là. Tu sais, il s'arrange pour que son fils se sente bien.
Ah,
il est très content,
famille.
Lui. Il faut dire qu'il y a un biais, là. Il est content parce qu'il y a
un gars, enfin.
Il y a un gars, enfin. Mais sauf qu'il fait tout pour qu'il se sente bien. Ouais. Puis il y a des gens qui font pour qu'il se sente bien aussi, mais qui font des gaffes pareilles parce qu'il y a de la maladresse aussi là-dedans.
Moi, ce que j'ai aimé, c'est que j'ai pas vu de méchanceté de la part de la famille, juste de l'incompréhension.
Puis... Ouais, c'est...
Ah, c'est exactement ça. Ouais. C'est de l'incompréhension. Tu l'as bien dit, là. C'est pas de la méchanceté, c'est de l'incompréhension.
Ouais. La maladresse.
Ouais.
Puis c'est drôle parce que c'est fait d'une façon bon enfant. France est tellement drôle dans ce film-là, est tellement enveloppante. Elle veut que ça se passe bien, mais elle s'ennuie de son ancienne fille, puis elle le dit, puis elle le nomme, puis ça... Évidemment, Xavier, ça le fait souffrir, ça, mais là, il arrive à se comprendre vers la fin du film, mais je veux pas encore voler le punch, mais ça, non, ça pas, finisse bien.
On fait pas ça à mon émission, on veut pas du tout ce qu'on appelle, nous on dit divulgâcher, on veut pas faire ça pas tout ici. Moi, Xavier, bon, ça y est, je mêle les noms. Alexis!
Mais c'est à cause du X.
Oui, c'est ta... je suis certain que c'est à cause de ça. Non, c'est mon âge. C'est ton premier rôle, donc on l'a dit, au cinéma. Est-ce que tu as senti, quelque part, une pression en tant que personne trans, tu sais, d'être super bon, plus bon que les autres pour ta communauté ou tes communautés?
Non.
Oh, God.
J'ai pas ressenti de pression. Je m'en suis peut-être mis un peu, là, parce que j'avais pas d'expérience, mais pas du tout. Mais j'étais dans une équipe tellement... On était vraiment une famille là, pendant le tournage. Puis j'étais dans une équipe parce que je ne ressentais pas de pression. Puis on m'avait déjà tout mis pas mal au clair. Les choses qu'on pouvait dire, les choses qu'on pouvait faire, puis comment qu'on pourrait faire que le film soit le plus inclusif possible, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté ou quoi que ce soit. Donc, j'ai pas senti de pression non plus pour que... ma communauté soit d'accord avec mon rôle ou peu importe. Écoute, moi, j'ai donné le meilleur de moi-même. J'ai donné beaucoup d'Alexis dans ce rôle-là. Puis j'espère que ça va plaire, en fait. Là. Mm-hmm. Puis honnêtement, c'est ça. Non, j'ai pas senti de pression. L'équipe était merveilleuse. J'ai rien à dire.
Comment t'as trouvé là, les choses les plus complexes à jouer là-dedans? La tension avec la mère, le flirt... La peur de la révélation?
Le plus compliqué. En fait, je dirais le plus difficile, le plus épuisant, ça a été surtout de revivre des moments que j'ai vécu dans ma vie. Donc, des situations qui étaient presque identiques, très similaires. Ça m'a vraiment fait retomber dans ces vraies émotions-là. Et quand on tourne un film, c'est des choses que je ne savais même pas moi-même. La scène, tu la tournes pas juste une fois. Même si elle était écœurante, tu vas la refaire 3, 4, 5 fois.
Ils sont tannants, les réalisateurs.
Ouais, on
pas
est,
du
on
tout.
Est
ben non, c'est pas à cause de ça. C'est parce qu'on la prend d'un angle, d'un autre angle. Ouais. Bon, ben c'est ça. Donc, dans le fond,
des fois,
on la
prend à cause que l'éclairage n'était pas.
Aussi.
Puis en plus...
Faut t'en mettre la même intensité, les mêmes émotions.
Puis nous, c'est un film qui n'a pas un énorme budget. Donc, on tournait en peu de jours. Donc, il fallait tourner vite. Fait que ça faisait des reprises rapides. Fait que...
Mais ça, c'est correct, aller,
ouais.
Mais...
Puis tous les mouvements, en fait, Alexis, ce que les gens savent peut-être pas à la maison, mais ceux qui connaissent le jeu, oui, ils savent. Quand on joue devant la caméra, puis admettons, tu prends un verre d'eau, tu le bois, ben, il faut que tu prennes le verre d'eau de la même façon dans chaque take.
Il faut remettre l'eau.
Il faut remettre l'eau la même façon. Et là... Pour Alexis, de refaire ça, c'est compliqué.
Je regardais les gestuelle. Autres, mais... J'ai appris sur le tas.
En tout cas, c'est une rencontre super intéressante à cette émission aujourd'hui. Merci tous les deux, Alexis Comte, donc, qui est... En fait, en terminant, tu as des projets, d'autres projets?
Ben, pas pour le moment. Ben là, dans le fond...
On va voir ce que les gens vont dire du film, c'est ça?
Oui, déjà, ça va être... Ben, c'est sûr que moi, j'aimerais ça que ça poursuive, mais écoute, je lance ça dans l'univers.
Puis toi, d'autres projets?
Ben oui, évidemment, là, je suis au théâtre dans Si Dieu le veut, qui est un théâtre documentaire sur l'histoire de la lutte et de la religion au Québec. On fait un parallèle. Je commence le 12 décembre, la soirée où le film sort, je joue au théâtre, tu imagines?
Ça s'arrête pas.
Ouais, mais sauf que je voulais dire, on est vraiment content du film, vraiment content aussi des mots qu'on a reçus jusqu'à date, puis de l'accueil qu'on a reçu dans les festivals, entre autres... autant Cinémania que le Festival du cinéma d'Abitibi-Témiscamingue où on a l'ovation debout. Tu es vraiment content que ça plaise aux gens qui ont des rancœurs. Puis on espère que ça va être un bon film de Noël et un rendez-vous pour tout le monde.
Yes. En tout cas, j'ai bien ri quand je l'ai vu. Merci beaucoup.
Tu l'as aimé?
Ben moi, je l'ai aimé. Yeah. J'ai eu du fun.
Ouais, ouais.
Bon. C'est bon.
Merci beaucoup tous les deux, Alexis Comte, donc, qui est acteur, qui joue le rôle de Xavier. Et merci à Stéphane Heroy, qui est le réalisateur, pour juste Xavier, qui est présentement à l'affiche. Et ben moi, je vous rappelle qu'il fait froid aujourd'hui, les amis, alors habillez-vous chaudement. Et n'hésitez pas donc à mettre une bonne tuque puis des gants. Et puis nous, ben, on termine l'émission ici. Je suis en onde à nouveau à 17h avec l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Passez une bonne journée. Merci.